Et bien aimé, une fois encore, nous allons implorer la grâce du Seigneur. C'est tellement merveilleux, notre Dieu, de savoir que de ta plénitude, nous pouvons recevoir grâce sur grâce. Et au début de cette heure, nous éprouvons le besoin de te demander une plus grande grâce encore, afin que, à nos besoins les plus précis, les plus personnels, les plus secrets, les plus cachés, tu nous donnes ta réponse, la réponse de ton cœur de mère, toi qui es le Père Tout-Puissant, mais qui nous aime tellement que tu veux parler de ton amour comme celui d'une mère. Nous voulons te demander que nous puissions connaître en toi la vraie tendresse. Cette tendresse qui nous renouvelle jour après jour. C'est si bon de se savoir aimé, de se sentir aimé, de l'éprouver dans le quotidien. Alors que nous avons tant de peines, tant de déceptions peut-être, mais toi tu nous demeures. Oh, que tu sois toujours le premier dans nos pensées, et que nous sachions qu'au moins toi, tu ne déçois pas. Toi, tu es toujours avec le même cœur d'amour. Nous ne pouvons pas nous habituer, alors nous sommes renouvelés par ton amour. Donne-nous une foi plus vivante. Donne-nous une espérance plus triomphante. C'est la grâce que nous te demandons pour ce matin. Et captive nos pensées par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Mes amis, ce matin, nous avions à nous préparer avec les versets 6 à 10. Mais je relis, comme nous en avons la coutume, depuis le verset premier du chapitre 7. Ceux qui contemplent la Tsunamite, la bien-aimée, que disent-ils d'elle? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des joyaux, ouvrage des mains d'un artiste. Ton nombril est une coupe arrondie où le vin aromatique ne manque pas. Ton ventre, un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux faons jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs qui sont à Hesbon. Vers la porte de Batrabane, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas, ta tête sur toi comme le Carmel et les cheveux de ta tête comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle et que tu es agréable, mon amour, dans tes valises. Ta taille ressemble à un palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai sur le palmier, je saisirai ses rameaux et que tes seins soient comme les grappes de la vigne et le parfum de ton nez comme des pommes et ton palais comme le bon vin qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Nous sommes au matin du 30 juillet, toujours occupés par notre thème, qui donc est Dieu, et nous nourrissons du cantique, des cantiques. À la question, que verriez-vous dans la Sulamite, que contient le verset 13 du chapitre 6, nous avons vu hier soir la merveilleuse réponse de ceux qui la contemplent. Ma langue a fourché, j'ai dit hier que c'était 7 traits, mais il y en a 10. Alors je corrige. En 10 traits, nous trouvons un tableau absolument ravissant de celle qui est nommée fille de prince. Alors nous rejoignons ainsi le psaume 45, que vous avez, je pense, encore en mémoire, puisque nous avons pu l'étudier ensemble dans notre culte de dimanche matin qui nous amenait à l'adoration de notre Seigneur. Alors je vous rappelle ici que, comme nous l'avons souligné hier, cette description de la bien-aimée commence par les pieds, puisque nous l'avons vu danser, hein, la danse Mahanaïm. Et nous nous sommes arrêtés sur cette description, les pieds d'abord de la bien-aimée. Ils sont beaux, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une chaussure, et quelle chaussure? La préparation de l'évangile de la paix. Combien sont beaux sur les montagnes ceux qui annoncent la paix. Quand on a été régénéré, quand on a été racheté, ce n'est pas pour... avoir les pieds délicats et ne pas marcher, et simplement passer notre temps à nous laver les pieds, comme certains le font, de telle manière que les pieds étant lavés, on n'a plus du tout envie de les salir. Mais nos pieds doivent être dans les chaussures. Et ces chaussures, c'est le bonheur, le vrai zèle que nous donne l'évangile de la paix. Apporter la paix à ce monde qui... je ne la connais pas. Paix du cœur, paix de la conscience, cette paix intérieure. Nous sommes, selon l'ONU, dans l'année de la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et la paix, elle n'est que dans le Seigneur, qui nous a fait connaître son Père, qui s'appelle le Dieu de paix. Et quand on marche avec Dieu, quand le Dieu de paix est avec nous, quelle sécurité. Et voyez-vous, pour que le Dieu de paix soit avec nous, il faut que nos pensées suivent un certain cours. Et vous avez cela dans le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, puisque nous voulons toujours... expliquer un texte par un autre texte. Nous ne nous laissons pas guider par notre imagination, ce qui serait trop scabreux, mais nous consultons la parole de Dieu. Verset 6 du chapitre 4, verset que vous connaissez bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, parce qu'on sait qu'on est déjà exaucé, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, ces cœurs qui se troublent si facilement, nos pensées qui s'agitent, eh bien, elles sont gardées. Et puis, alors, vous avez le verset 8 qui est capital et qui vous donne le programme de vos pensées. On reste frère, que tout ce qui est vrai. Donc, si vous savez que ce n'est pas vrai, est-ce que vous allez... nourrir vos pensées de ce qui n'est pas vrai, perdez votre temps. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. En dehors de cela, vous refusez. Parce qu'il n'y aura pas de miracle. Si vous laissez votre pensée vagabonder sur des choses qui sont contraires à ce programme, n'allez pas accuser Dieu de ne pas intervenir pour vous. Et ne commencez plus à vous creuser la tête pour vous demander, mais pourquoi ma vie est-elle si médiocre? Dis-moi à quelle chose tu penses et je te dirai ce que tu es. Car voyez-vous, nos paroles sont toujours le prolongement audible de nos pensées et nos actions en sont le prolongement visible. On pense et ensuite on agit. De sorte que vos actions, comme vos paroles, montrent ce qui se trouve dans votre pensée. Et si vous avez pris cela comme modèle de pensée, verset 9, j'essaye de répondre à des besoins précis qui sont dans ce camp ici. Ce que vous avez appris, dit Paul, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Le Dieu de paix sera avec vous. C'est simple. Le Dieu de paix sera avec vous, il ne peut pas en être autrement. Alors, quand vous me dites, oui, mais ça c'était le Seigneur, le Seigneur, il était divin, etc. Oui, mais il a été un homme, il s'est fait homme, et il vous a montré, lui, comment on pouvait rester dans la paix en toutes circonstances. Mais si vous me dites, oui, mais c'était le Seigneur encore, parce que vous n'en démordez pas, hein. On s'enracine dans nos mauvaises idées. Alors, je dis, ben regardez Paul, c'était pas le Seigneur, Paul. Il avait même une écharpe. Mais lui, il avait trouvé dans le Seigneur la solution. Et alors, il le reflétait de telle manière qu'il pouvait dire, regardez-moi. Vous voulez une délivrance? Regardez-moi. Faites comme moi. C'est quelque chose de merveilleux, ça. Et ce n'était pas parce qu'il se glorifiait de quelque chose. Il a dit, quant à lui-même, mais moi, je suis le premier des pécheurs. J'ai été un outrageux, un persécuteur, un blasphémateur, quant à ce que je suis. Puis il a dit de lui-même aussi, quant à ma chair, je sais quoi? Qu'est-ce qu'il savait au sujet de sa chair? Qu'il n'habite point de bien. Alors ça, il le savait, et il nous le dit. De sorte que s'il y a quelques bons fruits en l'apôtre Paul, sont les fruits de qui? Christ. Je connais un homme en Christ. Oh, que j'aime cette expression. Quand on rencontrait Paul, qu'est-ce qu'on rencontrait? Le Christ. Paul, il était caché en Christ. Il disparaissait en Christ. Et le contact, c'était avec Christ. Un plus grand que lui, un plus haut que lui, un plus grand que Salomon, un plus grand que Paul. Un plus grand que nous autres, mes bien-aimés. C'est toujours ça. Et c'est ça le témoignage. C'est pas se mettre en avant. C'est pas essayer de paraître. Ôtez vos masques, laissez le visage, le vrai visage du Seigneur, resplendir dans ce miroir que vous devez être. Mais pour que le miroir reflète l'image du Seigneur, il faut enlever toutes ces buées du monde sur le miroir. Et alors, si le miroir est net, l'image d'un plus grand que vous se reflètera sur vous, sans même que vous en ayez conscience. Quand on tourne vers lui les regards, psaume 34, on est rayonnant de joie. On est comme illuminé, dit une autre version, et notre face n'est pas confuse. Et alors, après ce premier trait, donc, les pieds dans les chaussures, ces chaussures que nous trouvons dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, nous sommes passés plus loin et nous nous sommes arrêtés sur les hanches de la bien-aimée et qui sont vues de l'extérieur, elles sont vues comme des joyaux ouvrages d'un artiste. Et nous avons parlé des hanches qui nous permettent d'avoir une démarche royale. Les hanches qui sont aussi le siège de la force. On ne cloche pas des deux pieds. Si vous clochez des deux pieds, vous n'avez pas de belles hanches. Vous marchez d'une façon déhanchée. Et cela, le monde le constate. Eh bien, je vous ai donné seulement ces quelques jalons pour que vous puissiez comprendre ce langage qui, à première vue, nous apparaît tellement charnel et qui, pourtant, va nous enlever à des hauteurs spirituelles merveilleuses. Parce que, justement, celui qui était en forme de Dieu, qui était en condition divine, mais Dieu est esprit, il ne peut pas se manifester, il ne peut pas être vu comme esprit. Alors, il nous a tellement aimés, et il savait tellement que nous étions des créatures qui ont des membres et tout, et bien il a voulu devenir comme nous. Il fallait que la divinité devienne humaine pour qu'elle nous approche. Mais pour nous, il n'y a pas de divinisation sans passer par cette humanisation du Christ. Le divin est devenu humain. Et maintenant, pour que nous devenions divins, il nous faut passer par le seul vraiment humain qui nous ramène au divin. C'est cela qui est tellement grand, qui est tellement merveilleux. Alors laissez-vous posséder, laissez-vous entraîner. Il était de condition divine. Il est descendu. On a étudié dans les camps précédents ces degrés d'humiliation. Il a pris un corps. Il est apparu au milieu des hommes comme un simple homme. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mais Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il est venu nous prendre là où nous étions, dans l'abjection, et lui s'est identifié à nous. Et alors, quelle démarche le Fils de Dieu avait quand il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jean-Baptiste, quand il le voyait marcher, il a dit « Voilà !» Simplement le voyant marcher, il vit Jésus qui passait. Et il dit devant ses disciples « Mais voilà !» L'agneau de Dieu. Et les disciples sont tellement saisis par cette démarche qu'ils veulent le suivre. Ils quittent Jean-Baptiste et ils le suivent. Où demeures-tu? Dit-il au Seigneur qui s'est retourné en disant, parce que si vous le cherchez, hein, si vous voulez le suivre, le Seigneur va se retourner. Et c'est ça qui est tellement beau. Voulez-vous le suivre? Voulez-vous le suivre? Il entendra vos pas. Et il ne fera pas comme s'il ne vous a pas entendu. Même si vous n'avez pas encore parlé, il va se retourner. Que cherchez-vous? Vous le cherchez? Où demeures-tu? Il veut être là où il se trouve. Eh bien, venez et voyez. Pas d'embarras. Hein. Venez et voyez. Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. C'est tellement merveilleux. Et alors, il les a conduits pour moi dans le sein du Père. Un jour, dans les parvis du Seigneur, d'aller mieux que mieux ailleurs. Mais ils ont vu sa démarche, une démarche royale. Et il les a conduits dans la cité d'or, dans le sanctuaire. Puis alors on a parlé du nombril, et alors on est étonnés, nous autres. Hein. Et on a un petit sourire moqueur, le nombril. Et nous l'avons dit, si vous n'aviez pas de nombril, vous n'existeriez pas. Parce que c'est par votre nombril que vous avez été nourri intérieurement dans le sein maternel. Alors, ça vous montre toute cette vie intérieure que vous avez eue. N'est-ce pas un vrai miracle? Quand il y en a qui nous disent, on ne peut pas croire à l'histoire du grand poisson, parce que les gens, évidemment, appellent ce grand poisson une baleine, puis ils ont toutes sortes d'objections, mais ce n'était pas une baleine de toute façon. Parce qu'on n'est pas honnête quand on parle de la Bible. On parle d'une baleine, il n'est jamais dit baleine dans l'Écriture, hein. Mais on nous dit, mais c'est pas possible qu'un homme vive là, 3 jours, dans le sein du poisson. Et puis, on est vraiment incrédule. Puis, on ne pense pas qu'il y a un plus grand miracle. C'est un bébé, un enfant, dans le sein maternel, c'est encore autre chose, hein, qui est formé et qui vit là, à l'intérieur du ventre de sa mère. et qui est nourri justement par ce cordon ombilical, dont il nous reste le signe sur le ventre, bien sûr, et pas ailleurs. Puis alors, c'est Dieu qui nous a fait, pourquoi nous aurions honte? Parce que nous avons tout déformé, et parce que nous voulons être, nous, le nombril du monde. Au lieu de nous souvenir que le nombril, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'intérieur. Nous devons avoir une vie intérieure. Si vous voulez avoir une vie extérieure, si vous voulez que le monde voit quelque chose de Jésus, commencez par être un jardin clos. Ayez une vie intérieure avec le Seigneur. Et puis, vous allez vous-même, n'est-ce pas, comprendre que votre vie extérieure est le reflet de votre vie intérieure. Ce n'est pas un effort. C'est un abandon, c'est un reflet. Ce que vous êtes intérieurement, vous le reflétez extérieurement. Et puis on a parlé du ventre qui contient les entrailles de miséricorde. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? De la dureté? De la méchanceté? Ou bien est-ce que tu as ces entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, d'humilité? C'est dans les tripes qu'on doit avoir ça. Et vous pouvez continuer ainsi. Et puis les saints, ces saints que Dieu a faits, et qui sont si beaux, c'est vraiment un artiste qui a créé l'homme, qui a créé la femme, d'une façon si merveilleuse. Et puis, on sait pourquoi il a créé les saints, on sait quelle est la fonction des saints. C'est pas simplement pour jouer, pour s'amuser, pour le mari. Oui, c'est aussi. Il le donne aussi au mari, mais c'est avant tout pour l'enfant qui va naître et qui sera nourri, selon Dieu, dans la mesure du possible, au sein de sa mère. Une image merveilleuse qui est trop perdue. La femme qui nourrit son enfant. Une réunion de famille. Il n'y a rien d'impur à cela. Et quand on voit ce qu'on a fait des saints aujourd'hui, sur les plages, cette exposition de viande de boucherie, à vous en dégoûter, alors que c'est si beau. Les pharaons, mais quand il y a... Moi j'étais au Liban, et je me souviens toujours, j'ai vu deux pharaons là, qui étaient là, et dès qu'ils m'ont vu, ils étaient loin. Mais maintenant, vous vous montriez vos seins. C'est incroyable. Mais les seins, c'est des femmes, ils sont effarouchés. Dès qu'ils sont vus, mais maintenant, on montre tout. Et c'est pour ça qu'on a la nausée sans avoir lu Jean-Paul Sartre et la belle Simone, enfin paix à leur famille. J'ai prié pour Jean-Paul Sartre souvent. Donc, si je n'étais pas chrétien, peut-être j'aurais été existentialiste. Comme je me connais. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraies. Hein, quand Sartre dit qu'on est qu'un tas de fumier. Vous avez admis ça? Qu'au fond, vous êtes un tas de fumier. Mais tout ce qu'il nous dit après, c'est creuse sur ton tas de fumier. Ben oui, c'est ça. Une fois que vous avez bien constaté ça, hein, c'est la philosophie du désespoir. Et qu'il n'y a qu'une liberté dans la vie, c'est de te suicider. Ça, tu peux décider. Hein. Voilà, bon. C'est vrai de vrai, tout ça. Et beaucoup de choses vraies. Mais je n'ai pas besoin de Jean-Paul Sartre pour dire que ce que je suis, quand je suis dans la lumière de Dieu, hein, avec la parole, je vois ma corruption. Mais quand il m'a montré ma corruption, il ne me laisse pas dans ma corruption, il me montre le Sauveur. Et alors, il vous arrache à votre misère. C'est ça qui est fantastique. Mais nous ne voulons pas, oh non, il faut qu'on ait une petite couche de philosophie, qu'on puisse parler de ceci dans nos salons. Et de quoi parle-t-on dans les salons? Eh bien, les saints, c'est la capacité de l'âme qui est au service du Seigneur et qui peut nourrir d'autres âmes aussi, spirituellement. Puis alors, il y a le coup, ce cou qui est devenu fort, qui ne se plie plus au joug du monde. Le cou, et on était sous le joug du monde, on était sous le joug du péché, on était plié, on avait un cou de vaincu. Mais maintenant, on a un coup de vainqueur. Non pas la nuque raide, hein, attention, mais un coup qui est comme de l'ivoire. Cet ivoire qu'on a enlevé à l'animal qui a souffert. Oui, pour avoir un coup semblable à l'ivoire, on a participé aussi à ses souffrances. Mais on a maintenant des convictions. Et nous sommes des gens qui ont une décision et qui n'acceptent pas les déviations. Le coup est solide. C'est le coup du vainqueur. Puis les yeux, miroirs de l'âme, bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, des yeux sans nombre ont vu l'aurore. Mais chers amis, oui, on a pu parler beaucoup des yeux, Philippe Prudhomme et d'autres, mais bien-aimés, les yeux, comme nous en parle la parole, des yeux qui l'ont vu, des yeux qui l'ont contemplé, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé. Alors maintenant, les yeux sont des étangs, c'est plus seulement une colombe, tes yeux sont des colombes. Hein. Nous avons vu ce que la colombe nous disait, nous reverrons encore cela, mais maintenant, des étangs, c'est le calme, c'est la pureté, c'est la douceur, un cœur calme et paisible. Et puis, le nez, n'est-ce pas, comme une tour du Liban dirigée vers Damas, le nez qui sent, hein. C'est là que nous avons le sens de l'odorat. Eh bien, la bien-aimée, l'Église, elle a un nez, et nous voulons croire encore qu'elle sent les choses, hein, et qu'elle sait ce qui est odeur de mort et ce qui est odeur de vie. Mais voilà, et quand nous respirons, et quand nous mettons notre nez dans n'importe quoi, hein, eh bien notre nez s'imprègne de cette odeur. Et quand on s'approchera de nous, eh bien notre nez n'a pas l'odeur des pommes, comme vous l'avez lu là. Hein, parce qu'il est encore rempli de ces mauvaises odeurs. Et alors, ça se dégage même de notre nez. Et vous savez, ce qui nous caractérise, suivant ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on fait? La grimace. Ah, c'est pas bon. C'est pas mauvais. Tandis que si vous respirez quelque chose de suave, c'est l'extase. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'extase si c'est suave. Respirez les parfums du Seigneur et non plus ces odeurs délétères de la terre. Avec toute sa corruption, tout ce qui est fétide. À moins que vous soyez comme le noir qui, conduisant un missionnaire, il était là sur sa barque et puis il mangeait de la viande qui était faisandée. Et le missionnaire était un peu écœuré de voir qu'il mangeait ça, ça sentait tellement mauvais. Vous savez ce que le noir a dit? Nous ne mangeons pas les odeurs. Bon, ben, si vous êtes comme ça, bien. Continuez de manger votre viande avariée, puisque vous ne mangez pas les odeurs. Mais croyez-le, c'est pas très sain. Et vous n'aurez pas cette santé spirituelle. Le nez, c'est l'intuition, le sens spirituel, un sens délicat. Et alors, on a une connaissance de la volonté de Dieu. Puis on sait d'où le danger vient. Damas, c'était l'ennemi. Eh bien, le nez est tourné vers Damas. On sait ce qui va se passer. On est averti, on a un sens spirituel. Et puis alors, on finit par la tête et les cheveux. Oh, que c'est beau. On est parti des pieds maintenant. Puis on a fait la description des pieds à la tête. Il y a d'autres descriptions, c'est de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Mais maintenant, on voit les pieds à la tête. C'est le corps de Christ dont ça marche, jusque alors dans la plénitude. Maintenant, on voit la tête comme le Carmel, le mont Carmel, une beauté extraordinaire, quand on arrive par la plaine du Saron, puis qu'on voit le Carmel, là, qui se dresse au-dessus de Haïfa, un de ces ports si merveilleux du Moyen-Orient, eh bien, voilà le Carmel, la montagne où priait Élie, où Élie habitait. C'est Élie qui avait de la puissance sur Dieu, qui pouvait prier et qui était vraiment exaucé, alors qu'il était pourtant un homme aux mêmes passions que nous. Ne dites pas, ce sont des exceptions. C'est parce que nous ne voulons pas suivre leurs traces. Nous avons une si grande nuée de témoins qui nous entourent, mais avec qui vivons-nous dans nos pensées? Nous vivons avec les modernes, soi-disant. Mais ils nous mènent où? Il y en a heureusement qui sont des exemples. Mais mes bien-aimés, le nombre se fait de plus en plus restreint. Eh bien, que notre témoignage soit de plus en plus individuel. Ne regardons pas à ce qui se fait collectivement, mais regardons le témoignage individuel. Et si notre témoignage individuel est renouvelé, la collectivité aussi pourra s'en ressentir. La tête. Ah, quand on pense à la tête. Qui est la tête du corps? C'est le Christ lui-même. On atteint à cette plénitude du Christ. On a de la puissance auprès de Dieu pour gagner les âmes. Et là, on arrive à la mesure de nos bénédictions. La tête, elle est où? Dans le ciel. Voilà où vous amène la vision de l'Église des pieds dans sa marche sur la terre à la tête. Où est-elle notre tête? Dans le ciel. Où se trouve le Seigneur Jésus? Et c'est de lui que nous recevons nos directions. Et alors, si la tête est dans le ciel et que nous participons justement à la vie de la tête, nous sommes donc dans les lieux célestes. Notre cœur est déjà dans les lieux célestes. C'est Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Dieu nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il n'est pas dit que nous serons bénis, mais nous sommes. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour être des bénis? La foi qui saisit ces choses. Nous sommes des incrédules. Il nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors saisissez ces bénédictions et remerciez Dieu pour ces bénédictions. Emparez-vous de ces bénédictions. Saisis la vie éternelle. C'est cela qu'il a dit à un croyant. Saisis, mais vite, cette vie éternelle que tu prétends posséder, puisque tu l'as. Eh bien, vis de ces ressources-là, parce que c'est cela, la vie véritable. Et si tu vis de cette vie véritable, eh bien, tu seras vainqueur. C'est tellement beau. Remarquez ce qu'il est dit. Combien de bénédictions? Ou quelle bénédiction? D'après le texte, Éphésiens 1, verset 3, toutes. Retenez le mot. Alors, il y a la vôtre. Et puis, qu'est-ce que nous disons encore? Dans les lieux célestes. Mais est-ce que vous y pensez? Pensez aux choses qui sont en haut. Il faut que les lieux célestes vous deviennent familiers. Si Moïse n'avait pas eu cette possibilité de voir l'invisible, il aurait reculé, il aurait été anéanti 40 ans au désert pour conduire un peuple pareil. Mais il marchait comme voyant l'invisible. Il marchait comme voyant l'invisible. Eh bien nous, ce sont des bénédictions célestes. Nous devons entrer dans le céleste. Et puis, un autre mot, une autre expression, ces bénédictions dans les lieux célestes, nous les avons en qui? En Christ. Nous les avons en Christ. Tout en Christ. En Christ. Et je voudrais vous dire que mon ami, le pasteur à Neuchâtel de la collégiale, était tellement ému de penser qu'on a pu distribuer son petit livre « Tout en Christ ». Je lui ai dit « Je vais t'envoyer ce que nous avons pu récolter comme argent ». Et il m'a répondu « Écoute, paye le camp à des personnes qui ne pourraient pas se le payer en souvenir. Ça me donne tellement de joie. Tout en Christ ». Et lui, quand je prêchais au 700e anniversaire de la collégiale de ma ville natale, eh bien, il me disait, tu sais, Gaston, moi j'ai été élevé dans la théologie moderniste, je ne croyais plus en rien, et c'est parce que j'ai lu des ouvrages d'auteurs catholiques que je suis revenu au Seigneur Jésus. Et c'est vrai. Et quand je lui ai dit, écoute, prie pour nous parce que je prends le cantique des cantiques, il a compris de quelle manière je traiterai le cantique des cantiques. Non pas comme certains théologiens modernes aujourd'hui qui n'y voient que de l'érotisme et qui voudraient nous faire croire que le cantique des cantiques justifie la cohabitation et l'amour libre. Oh non! Eh bien, cet homme, il est revenu justement au Seigneur. Pourquoi? Bien, par les mystiques, disons, par ceux qui se sont nourris de la parole et qui ont aimé le Seigneur, qui ont cherché à comprendre le sens profond de ces images qui nous paraissent charnelles, mais qui nous conduisent à une spiritualité merveilleuse. Sans nier le corps, sans renier le corps, mais qui replace tous nos organes à leur place. Et si tout fonctionne sous la direction du Seigneur, eh bien, il y a le bonheur, aussi bien dans la vie conjugale, de telle manière qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs que dans son foyer les joies du couple. Que le Seigneur nous sanctifie quand nous lisons sa parole, et que nous nous souvenions du 10e trait sur la tête, qu'est-ce qu'il y a comme ornement? Si, ils sont encore là. Vous pouvez toujours prendre une perruque. Mais sur la tête, il y a les cheveux. Et les cheveux, c'est le symbole de la consécration pour l'homme et pour la femme. Oh, j'ose pas le dire. De la soumission. N'est-ce pas? Mais ça vous fait tiquer. Les cheveux. Quelle beauté, la chevelure, hein? Mais c'est le signe aussi de cette soumission. Eh bien, si vous voulez le bonheur dans votre église, dans votre assemblée, que la femme garde sa soumission, que l'homme se souvienne que lui aussi, il est soumis à qui? À un plus grand que lui, c'est la pourpre qu'on voit dans ses cheveux. La pourpre, c'est l'image de la royauté. Au-dessus de l'homme, il y a le Seigneur. Et il y a la pourpre. De sorte que tous ces passages, je vous ai dit, il n'y a pas un trait de lettre du Cantique des Cantiques, il n'y a pas un verset qui n'ait pas un sens profond et qui ne puisse pas vous apporter une nourriture spirituelle merveilleuse. C'est la soumission à la parole qui nous donne vraiment de la puissance sur notre Dieu. Quand les âmes sont soumises à la parole, eh bien, on lit le Seigneur par une seule boucle de nos cheveux. C'est ça qui est fantastique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Un roi est enchaîné par des boucles. Quand vraiment il y a soumission au Seigneur, on a puissance sur le Seigneur. Il ne peut pas ne pas nous exaucer. Si vous êtes soumis à sa parole, si vous allez à lui avec sa parole, le Seigneur vous exauce. Il est enchaîné par une boucle de vos cheveux. Quand vous avez compris que vous voulez être soumis à la parole. Et alors, il y a une autre soumission, une troisième soumission. Soumission de l'homme à la femme, parce que c'est l'ordre de Dieu, c'est pas parce que la femme est inférieure. Pas du tout, nous sommes égaux. Mais il y a une hiérarchie, Dieu veut qu'il y ait de l'ordre, et quand vraiment l'homme est l'esclave du Christ, la soumission à laquelle la femme est amenée, ce sont ses délices à la femme, parce qu'elle a une autre nature que l'homme. Et la femme est heureuse de savoir que l'homme prend des décisions, qui n'est pas une mauviette, mais qui a du caractère. On aime pouvoir s'appuyer sur le bras fort de l'homme. Bien sûr que si l'homme n'a pas trop de caractère, eh bien, quelquefois la femme doit porter les pantalons. Mais il faut savoir céder les uns les autres. Mais il y a quand même un ordre qui est divin. Et puis avec tout cela, on est soumis les uns aux autres. Il y a une soumission collective. Soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. On n'essaye pas de dominer, mais on sert les autres. Voilà, j'ai essayé de revenir à ces versets que nous avons juste considérés hier soir. Et maintenant, la suite, vous voulez parler maintenant? Qu'est-ce que vous avez vu dans la suite? Qui est-ce qui parle maintenant? C'est le Seigneur, hein? Oui. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? C'est vraiment l'œuvre d'un habile ouvrier, hein, comme cela a été dit verset premier. Les contours de tes hanches sont comme des joyaux ouvrages des mains d'un artiste. Qu'est-ce qui vous a créé? Un véritable artiste. C'est un artiste qui nous a fait. Dans toutes nos parties. C'est les mains d'un artiste. De sorte qu'on peut dire, vraiment c'est l'œuvre d'un habile ouvrier. Le regard est allé de la chaussure jusqu'où? Jusqu'à la couronne. Alors, ça nous fait penser à Éphésiens 2, que vous aimez beaucoup, 10. Nous sommes, si c'est l'œuvre d'un habile ouvrier, nous sommes quoi? Son ouvrage. Vous voyez que ça colle. On retombe sur nos pieds. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés, pourquoi? Pour deux bonnes œuvres, non pas pour la fornication avec notre corps, non pas pour employer tous nos membres pour nous satisfaire dans la grossièreté, mais nous avons été créés par Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ. Nous ne sommes plus créés simplement en Adam, nous sommes créés dans le nouvel Adam, c'est le nouvel homme. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Quelles seront nos œuvres? Les œuvres de Dieu. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? En premier, c'est de croire. C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez comme tout s'éclaire, comme tout s'illumine, comme nous devons nous laisser pénétrer par cette parole. C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez à celui qui vous a envoyé. Bien, nous sommes son ouvrage, préparé d'avance pour les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc nous n'avons pas à chercher nos bonnes œuvres. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur ? Entrez dans les œuvres qu'il a préparées spécialement pour vous et vous êtes qualifiés pour ces bonnes œuvres. Mais la moitié des gens chrétiens, ils veulent faire des œuvres pour lesquelles ils ne sont pas du tout qualifiés. Et c'est une catastrophe. Et le monde le voit. Mais nous avons de telles prétentions que nous pouvons servir le Seigneur, que nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur, alors que c'est faux, que c'est faux, que c'est faux. S'il nous appelle à son service, et nous sommes tous appelés à son service, mais nous devons considérer cela comme une grâce. Ce n'est pas un mérite de le servir. Je ne peux pas faire autrement, parce qu'il m'a appelé. C'est une grâce. Mais si je n'avais pas été appelé, je ne serais pas ici au milieu de vous. Parce qu'il y a trop de souffrances, il y a trop d'obstacles. On serait découragé. Puis d'abord, ça conduirait au suicide. Non, je compte sur le Seigneur. Alors, je lui dis, donne-moi de ne pas dépasser ma mesure. Quand on me demande pour certaines choses, je peux dire non, ça c'est pas mon domaine. Comprenez-vous ? Il ne faut pas croire que tout est notre domaine parce qu'on est au Seigneur. Il y a des membres dans le corps et qui ont différentes fonctions. Si vous voulez sortir de la fonction que Dieu vous a donnée, c'est la foi. C'est vrai ou c'est faux ? Ayons un peu de logique. Alors que le Seigneur nous montre ces choses. Et lui nous a montré qu'il est resté dans cette soumission, lui qui était Dieu lui-même, qui était le Fils de Dieu. Comme homme, il nous a montré qu'il vivait dans une soumission totale. À un tel point qu'un centurion romain a tellement compris cela qu'il lui dit, n'est-ce pas, quand il lui demande, il lui parle de son fils malade, il lui dit, moi je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais il parle de cette autorité qu'il a reçue et qu'il peut donner des ordres, peut déléguer des ordres. C'est très beau cela. Le païen a compris cela. Tu n'as pas besoin de venir, dis seulement une parole. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ? Un païen ! Et nous n'aurions pas à apprendre des païens ? Oui, même des païens, vous avez à apprendre. J'ai à apprendre des païens. J'ai des leçons à apprendre. J'ai à apprendre de Saint-Benoît-du-Lac. Je ne rentre jamais de Saint-Benoît-du-Lac sans me poser certaines questions qui m'édifient et qui m'excitent à vivre plus près de Jésus. Et alors on a des sentiments d'amour pour tous les hommes. Et quand le Seigneur entend un témoignage pareil rendu à son Église, à sa bien-aimée, à son épouse, alors il enchaîne, c'est vrai. On a dit qu'un roi était enchaîné par tes boucles, ben c'est vrai, je suis enchaîné par toi, je t'aime, je te désire. Oh qu'il y ait un réveil dans l'Église, même avant le retour du Seigneur, qu'il y ait des âmes réveillées, qui donne encore au monde ce goût de l'Évangile. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le sel rate ? Avec quoi le lui donnera-t-on, le lui rendra-t-on ? Voyez-vous, il faut que les choses de Dieu qui sont fades pour le monde, eh bien nous, il faut que nous soyons le sel des choses de Dieu. C'est votre vie qui donne du goût aux choses de Dieu. Quand on voit votre vie, puis qu'on voit que c'est vrai, ça donne le goût d'en manger. Mais si votre vie ne dit rien, eh bien, si votre vie est fade, ça ne m'entraîne pas vers les choses de Dieu. Alors c'est le bien-aimé qui parle maintenant. Que tu es belle. Nous avons remarqué le nombre de fois où il dit que tu es belle. Il aime avoir votre beauté. Mais quelle est cette beauté qu'il voit en vous ? C'est la sienne. Allons-nous voir en sa beauté, dit Jean de la Croix. Allons-nous voir en sa beauté. Quand vous réfléchissez le Seigneur, qu'est-ce que vous reflétez ? Sa beauté. Et lui voit sa beauté sur vous. Le Père éternel voit la beauté de son Fils sur vous. Vous êtes semblable à son Fils. Et c'est ça qui donne de la joie au Père. N'est-ce pas merveilleux ? Que tu es belle, que tu es agréable. Puis comment est-ce qu'il l'appelle ?
mon amour. Et ça, c'est sans mentir. Parce que l'amour de Dieu a été vérifié, constaté. Quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Et nous sommes toujours son amour. Depuis qu'il nous a rachetés, depuis que nous nous sommes laissés saisir, depuis que nous avons été fiancés au Christ. Dans ce monde, nous sommes fiancés à Christ et nous pouvons dire non à tout ce que le monde nous offre. Nous sommes déjà pris. On n'a pas à se bagarrer avec le monde. Je suis pris. J'ai dit mon oui ailleurs. Et maintenant j'attends le jour des noces. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et le bien-aimé peut dire sa satisfaction qu'il a dans sa bien-aimée. Mes délices. Naomi, mes délices. Mes délices. Il trouve ses délices en sa bien-aimée. Et nous, est-ce que nous trouvons nos délices dans le bien-aimé? Qu'est-ce qui fait nos délices? Qu'est-ce qui fait les délices du Seigneur? C'est de voir que nous aimons ce qu'il aime. Mais si vous aimez les choses du monde, ben il y a contradiction. C'est ce que nous disions au sujet du nouvel homme, qui va reprendre les habits du vieil homme. Il dégénère. Il y a opposition de l'homme entre lui et ses habits. C'est dégénéré de reprendre les coutumes du vieil homme quand on est un nouvel homme. Laissez tout cela dans la tombe. Et puis, vivez étant revêtu de Christ, revêtu du nouvel homme. Le Seigneur trouve dans sa bien-aimée ses délices. Est-ce que moi je trouve mes délices dans le bien-aimé? Tu les abreuveras, dit un psaume, au torrent de tes délices. Et voyez-vous, je suis absolument convaincu de cela. Le Père, il a trouvé ses délices dans qui? Dans le Fils. Hein. C'est mon Fils bien-aimé en qui je trouve mes délices, en qui je trouve tout mon plaisir. Alors, le Fils, maintenant, trouve ses délices dans l'Église qu'il a rachetée. Et je dirais qu'un homme droit, eh bien, lui, il ne peut plus aller dans une voie oblique, parce qu'il est devenu droit. Il aime la droiture, parce que maintenant, le Seigneur l'a rendu droit. Hein. Il l'a rendu droit. On n'accepte plus d'être des tordus. Et on n'accepte pas qu'on nous torde, comme on le verra le palmier. Il n'accepte pas d'être tordu, le palmier. Vous pouvez même le lier. Vous pouvez même attacher ses branches. Qu'est-ce qui lui arrive quand il est détaché? Il se remet droit. Vous ne pouvez pas plier le palmier. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous devons savoir ces choses. Si le Seigneur est votre Sauveur et votre Seigneur, il met dans votre cœur la droiture. Et vous ne pouvez pas vous complaire dans les choses obliques. Vous ne pouvez pas, ayant été rendu honnête de son honnêteté à lui, vous ne pouvez vous complaire que dans l'honnêteté. Et tout ce qui est déshonnête, hein, en parole ou en action, ce n'est pas de votre sang. Vous avez pu vivre dans la malhonnêteté avant. C'était le vieil homme. On ne devait rien attendre d'autre de lui. Mais maintenant, le nouvel homme qui est créé en Jésus-Christ, il ne peut pas être déshonnête ou malhonnête. Et puis, vous avez été créé dans la pureté maintenant, en Jésus-Christ. Alors, dans cette pureté, vous ne pouvez aimer que la pureté. La pureté ne devient pas un fardeau pour vous, mais c'est votre nouvelle nature. Et vous souffrez quand vous êtes dans un milieu impur. Vous ne pouvez pas vous complaire dans un milieu impur. Il y a une opposition. Vous êtes malheureux. Et comme un impur, il ne peut pas se complaire dans un milieu saint. C'est pourquoi un impur dans le ciel de sainteté, ben ils s'enfuiraient. Ils fuiront dans les ténèbres du dehors. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui les chasse. Mais ils ne peuvent pas supporter l'éclat de la sainteté, l'éclat de la justice. Parce qu'ils n'ont pas été régénérés, transformés. Il faut qu'ils soient dans leur milieu. Eh bien, nous aussi, il nous faut être dans notre milieu. On est un avec le Christ. On est vraiment accompli en lui. Vous êtes accompli en lui. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais passons simplement. La taille, maintenant, celui qui dépeint, ta taille ressemble à un palmier. Vous avez vu les palmiers, hein? Et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai sur le palmier, je saisirai ses rameaux. Vous savez que les Arabes appellent le palmier comment ? Ils l'appellent l'arbre béni. Le palmier, pour l'arabe, c'est l'arbre béni. Et ils l'appellent aussi, et je trouve ça tellement admirable, la sœur de l'homme. Le palmier, ils l'appellent la sœur de l'homme, dans leur langage. L'arbre béni, la sœur de l'homme, ma sœur, ma fiancée, la sœur de l'homme. Et vous connaissez la puissance de production d'un palmier. Elle est telle qu'on peut récolter 200 à 300 kilos de fruits. C'est la richesse de l'arabe, du désert, le palmier. C'est ce qui lui permet aussi de vivre. Et voyez-vous, quand on voit des palmiers au désert, mais rien n'égale la grâce et la majesté d'un palmier. Dans mon jardin à Nice, en France, nous avons un grand palmier. Et je l'aime, hein? Vous l'avez vu peut-être quelques-uns. Parce qu'il me parle, le palmier, comme aussi les deux cyprès que j'ai plantés, qui étaient tout petits, puis qui maintenant qui sont les deux témoins pour moi. Ils ont dépassé la hauteur de la maison. Les palmiers, ces arbres qu'on a plantés, et qui nous parlent justement de leçons spirituelles. Le palmier des oasis, c'est le roi des grandes plaines, qui, dont le diadème est haut élevé. Il y a le diadème tout en haut. Le diadème du palmier, il est haut élevé de feuillage. Et sa verdure au palmier, elle est permanent. Il reste toujours vert. Et sa vitalité, elle est constamment renouvelée. Le palmier a une vitalité qui est constamment renouvelée. C'est une image de la vie au royaume de la mort, au désert. Le palmier, image de la vie au royaume de la mort. Et qu'est-ce que nous pourrions voir encore dans l'Écriture ? Bien, prenez, je vous ai dit, cherchez tous les mots qui peuvent correspondre dans les textes bibliques au palmier et vous y trouverez des leçons merveilleuses. Le psaume 92, par exemple, verset 12, qu'est-ce que vous lisez ? Le juste poussera comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre du Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront où ? Dans les parvis de notre Dieu. Est-ce que vous vous laisserez transplanter ? Ou bien est-ce que vous voulez rester pour toujours dans ce monde ? Oh, nous allons vers la transplantation. Mais alors laissez-vous soigner par le divin jardinier. Et puis quand il voudra vous transplanter, eh bien vous savez où vous irez. Dans les parvis de notre Dieu. Fleurir dans les parvis de notre Dieu. Cela ne vous dit-il rien ? Le palmier, c'est le type de la maturité. C'est le type de la droiture. C'est le type de la fertilité. Et vous avez vu, son tronc élancé, sa taille. Quelle est votre taille? Oh, vous me direz, le Seigneur a aussi pitié des gens de petite taille. Mais c'est vrai. Mais je ne parle pas de votre taille en centimètres. Je parle de votre taille spirituelle. Il y a des gens qui ont une grande taille et qui sont drôlement petits, spirituellement. Puis il y a des gens qui sont de petite taille et qui sont de véritables palmiers. Ta taille spirituelle, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es un palmier? Est-ce que ta vie s'élance droite vers le ciel et est couronnée en haut, en haut, en haut? Mais il faut que nos racines plongent vers le courant dans ce terreau d'amour du cœur de notre Seigneur. Et alors toute cette vie vient de lui. Et alors il y aura du fruit en haut. Et qu'est-ce que c'est ce fruit? C'est le fruit de l'esprit. Ils seront abondants, ces fruits de l'esprit. Mais on les verra en haut. Le fruit de l'esprit, qui est la joie, l'amour, la paix. Oui, il y a abondance de fruits. Et alors le Seigneur est libre de monter sur le palmier. C'est l'union totale. Et il va prendre ses fruits. Il saisira ses rameaux. Que tes seins soient comme des grappes de la vigne et le parfum de ton nez comme des pommes. Ce nez dont on a déjà parlé, eh bien, il est imprégné maintenant de cette odeur du Christ, le parfum des pommes. On retrouve les pommes ici, comme on l'a vu dans le chapitre 2. Et ton palais, ce palais qui est plein de douceur, comme le bon vin. Voilà ce que le bien-aimé trouve. Il y a du bon vin dans votre vie. Quand il voit quelque chose qui lui plaît, qui correspond à son caractère, pour Dieu, pour le Seigneur, c'est quoi? C'est du bon vin. Bon, ça ne vous dit rien à vous, parce que vous ne buvez que de l'eau. Bon, ben, le Seigneur a fait aussi le vin. Et lui, il sait apprécier le bon vin. Il ne s'enivre pas. À Cana, il n'a pas saoulé le monde. Mais il sait apprécier. Et il donne du vin meilleur. Et celui qui dit que c'est du bon vin, c'est celui qui a fait le vin de Cana. Il sait ce qu'il dit quand il voit quelque chose de bien dans une âme. Il dit, c'est du bon vin. Est-ce qu'il y a du bon vin dans ta vie pour le Seigneur? Est-ce que tu lui donnes de la joie, de cette joie pure dont il a tant besoin, lui aussi? Le Seigneur qui a tant fait pour nous, est-ce que nous ne pourrions pas lui donner un peu plus de joie, un peu plus de bon vin, pas du vin frelaté? Mais du bon vin. Notre vie doit être du bon vin pour le Seigneur. Tu vois, quand il dit cela, vous avez vu, c'est la bien-aimée qui continue. Elle continue le discours, elle. Le Seigneur parle, mais il y a une communion totale. Le bon vin que tu trouves, il est pour toi, qui coule aisément, c'est elle qui parle maintenant, qui coule aisément pour mon bien-aimé, et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment, s'endormir dans le Seigneur. Quelle chose merveilleuse. Ça vaut mieux que le Valium. Quand on est dans les bras du Seigneur, j'ai parlé de cela un petit peu à notre ami Charles de Québec ce matin. D'être dans les bras du Seigneur. Ce bon vin qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Et elle peut dire, ça c'est le sommet, c'est vraiment le sommet. Je suis à mon bien-aimé. Et son désir se porte vers moi. Maintenant c'est lui vraiment, elle le sait. Le désir du Seigneur, son désir, il l'aime, il la désire. Vous êtes la désirée du Seigneur. Spirituellement parlant, comme un époux peut désirer sa femme. C'est merveilleux. Et c'est tellement sain. Et ça relève toute chose. Tout ce que Dieu a institué, le mariage, tout cela, est remis à sa juste valeur. Dans un éclairage nouveau, l'éclairage de la sainteté qu'on a perdu de vue dans un tel monde où toutes les valeurs sont transvaluées, où toutes choses sont profanées, retrouvez le goût des choses saintes. Et vous deviendrez, et moi avec vous, une sainte sacrificature pour Dieu notre Père, et non pas des agents doubles de Satan, le prince de ce monde. Et alors, quelles seront nos nuits dans la paix du Seigneur? J'aime beaucoup vous citer ce dernier verset dans Jérémie 31. Quel sera votre réveil si vous vous êtes endormi en lui? Quel sera votre réveil? Bien, quand vous vous réveillez, Jérémie 31, verset 25, j'ai rassasié l'âme lassée, j'ai rempli toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé et mon sommeil m'a été doux ou agréable. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Vous aviez certainement de belles choses à dire. Mais vous aurez encore l'occasion de nous les dire et de partager tout ce que je n'ai fait qu'ébaucher. Je ne vous ai donné que quelques jalons. Et vous, vous allez, avec ces quelques pistes de réflexion que j'ai voulu orienter, vous allez en faire, comme nous le disons souvent, de larges avenues. Vous allez méditer là-dessus. Méditer, méditer. Quelqu'un a quelque chose à dire? Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu nous donnes encore de pouvoir poursuivre ce merveilleux voyage. Que cela nous apporte vraiment du bien, une bénédiction même physique, psychique et spirituelle. Tu envisages l'homme tout entier. Tu l'as créé esprit, âme et corps. Et tu veux que dans toutes nos parties, nous puissions connaître cette vie de sanctification qui donne le vrai bonheur. Dans notre vie de tous les jours, dans cette vie terrestre, mais qui prend un sens. Oh, que nous soyons illuminés par cette gloire qui est la tienne. Tu nous l'as manifestée, cette gloire. Sur ton visage, toutes les perfections du Dieu trois fois saint pouvaient s'y lire. Il y avait sa sainteté, sa vérité, sa douceur, sa vérité, aussi toute sa puissance. Celui qui m'a vu a vu aussi mon Père. Où tu as fait lire tes perfections, oh Dieu, sur la face du Christ. Donne-nous de contempler cette sainte face. Donne-nous de chérir ton image et que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons vraiment transformés, que ce ne soit plus des efforts que nous faisons pour paraître ce que nous ne sommes pas à l'intérieur, mais que nous reprenions le jardin clos, la fontaine scellée, pour qu'ensuite tu puisses vraiment faire couler de nous ce bon vin, d'abord pour toi, mais aussi pour d'autres âmes qui voudraient aussi goûter à ce bon vin qui te plaît. C'est ce que nous te demandons très humblement, en te priant de nous donner la suite selon ton cœur dans cette journée, soit pour le Ranch, soit pour Saint-Benoît, soit pour le Mont Orford, soit pour le pique-nique ce soir à la clairière des Indiens, si tu le veux ainsi. Merci Seigneur, parce que nous pouvons nous proposer toutes choses devant toi en te disant maintenant.